Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la radio francophone iranienne en ce vendredi 13 janvier 2023, le 23 Dey 1401 du calendrier iranien. Nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique qui porte sur la vision du leader de la révolution islamique au sujet de l'approche occidentale aux émeutes en Iran. Restez avec nous. Le leader de la révolution islamique a évoqué l'erreur de calcul des ennemis concernant les récentes émeutes en Iran. L'Iran continuera à soutenir le peuple, le gouvernement et la résistance libanais. Trois Palestiniens tués par des militaires israéliens à quelques heures d'intervalle en Cisjordanie et des chars occidentaux semblent se diriger vers l'Ukraine, brisant un tabou dans l'envoi d'armes à ce pays. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici les détails. Le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Sayyed Ali Khamenei, a évoqué l'erreur de calcul des ennemis lors des récentes émeutes en Iran, affirmant qu'ils ont tenté en vain de rallier les Iraniens derrière leur complot visant à renverser le gouvernement et à désintégrer la République islamique. L'ayatollah Khamenei a fait ses remarques lors d'une réunion avec un certain nombre de poètes et de panégyristes de la maison du Saint-Prophète à Téhéran. Les ennemis croyaient que le peuple iranien allait soutenir leur complot de sécession et de renversement du gouvernement juste parce qu'il était aux prises avec des problèmes économiques, d'après le leader. En réponse aux déclarations interventionnistes de certains responsables européens, l'ambassadeur de Suède à Téhéran, Matthias Lenz, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères, qui lui a rappelé que la République islamique d'Iran ne tolère aucune ingérence dans ses affaires intérieures. Pour la troisième fois, depuis son adhésion à l'Union européenne, la Suède occupe la présidence tournante du Conseil de l'UE. Le directeur général du département de l'Europe occidentale du ministère des Affaires étrangères a condamné toute intervention dans les affaires intérieures de la République islamique au lieu d'accuser, de provoquer, d'avoir des positions ambivalentes, l'Europe devrait revoir son engagement envers le respect des valeurs humaines et nationales des autres pays, a-t-il déclaré. À la suite des récentes émeutes en Iran, certains responsables de l'UE, dont Josep Borrell, qui est en charge de la politique étrangère de l'Union européenne, ont ouvertement soutenu les émeutiers et tenu des propos dérangeants concernant les affaires internes de l'Iran. Par ailleurs, l'Union européenne a imposé des sanctions à des responsables et des institutions iraniennes. Les Occidentaux instrumentalisent les droits de l'homme à des fins diplomatiques pour faire avancer leurs objectifs, alors que les droits de l'homme ont une vocation. Leur but suprême est de préserver l'humanité, la dignité et les valeurs morales, a indiqué le ministère iranien des Affaires étrangères. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, Arrivé jeudi à Beyrouth à l'invitation officielle de son homologue libanais, Abdullah Bouhabib a déclaré dès son arrivée à l'aéroport que l'Iran maintiendra son soutien indéfectible au gouvernement, à la nation, à l'armée et au Hezbollah libanais, exprimant l'espoir que les différents partis politiques mettent fin à la crise politique du pays pour élire un nouveau président. Dès son arrivée à l'aéroport, M. Amir Abdullahian a affirmé que sa visite vise à mener des discussions portant sur les relations bilatérales ainsi que sur les questions régionales et internationales, notamment les derniers développements dans les territoires palestiniens. La République islamique d'Iran continuera à soutenir avec force le peuple, le gouvernement, l'armée et les forces de résistance du Liban, a précisé le haut diplomate. Amir Abdullahian a par ailleurs évoqué la crise politique que traverse le Liban pour élire un successeur à l'ancien président Michel Aoun. Nous sommes pleinement convaincus que les forces politiques actives et influentes de ce pays frère ont l'indépendance, la sagesse qui les qualifie pour résoudre leurs affaires par elles-mêmes loin de toute ingérence étrangère, a-t-il argué. Il s'agit de la troisième visite du premier diplomate iranien au Liban depuis sa prise de fonction. La dernière visite du ministre iranien au Liban a eu lieu en mars dernier où Amir Abdullahian a rencontré de hauts responsables libanais et discuté d'un certain nombre de questions régionales et internationales. Il s'est également déplacé au Liban en octobre 2021. Il est également prévu que le ministre iranien des Affaires étrangères s'entretienne avec son homologue russe Sergueï Lavrov le 17 de ce mois dans la capitale russe Moscou. Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Çavuşoğlu a déclaré que son homologue iranien Hossein Amir Abdullahian se rendrait en Turquie la semaine prochaine dans le cadre des efforts russes en cours pour tenir une réunion entre les ministres turcs, syriens et russes des Affaires étrangères. En parlant de la Syrie, le président syrien Bachar al-Assad a lié un rapprochement négocié par la Russie avec la Turquie à la fin de l'occupation par Ankara des parties nord du pays arabe et de son soutien aux groupes terroristes qui font des ravages et luttent contre le gouvernement de Damas. Assad a fait ses remarques lors d'une réunion avec l'envoyé spécial du président russe pour la Syrie, Alexandre Lavrentiev, et sa délégation qui l'accompagnait à Damas. Le président Assad a rencontré l'envoyé spécial du président russe dans la capitale Damas. Les deux parties ont discuté des relations stratégiques syro-russes et des mécanismes de les consolider dans tous les domaines qui servent les intérêts des deux pays et des deux peuples amis. Lors de l'entretien qui a porté sur la situation régionale et internationale, Assad a affirmé que la bataille politique et médiatique qui est actuellement la plus féroce dans le monde implique plus de constance et de clarté dans les positions politiques, évoquant à cet effet la position de la Syrie soutenant l'opération militaire spéciale russe dans le Donbass. Pour sa part, Lavrentiev a en outre considéré qu'en dépit de fortes pressions qu'ils exercent, les États-Unis et leurs alliés ont échoué à isoler la Russie et la Syrie. Lavrentiev a souligné que son pays évalue positivement la réunion tripartite entre les ministres de la Défense de la Syrie, de la Turquie et de la Russie et réitéré l'importance de poursuivre et consolider de telles réunions au niveau des ministres des Affaires étrangères. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déjà évoqué la possibilité d'un face-à-face avec Assad. Cette réunion, a-t-il dit, devrait être précédée de discussions entre les chefs des services de renseignement, les ministres de la Défense et des Affaires étrangères. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé jeudi la mort de 3 Palestiniens lors d'incidents distincts lors d'affrontements avec les militaires israéliens. Le Palestinien Abdelhadi Fakhri Nazal, 18 ans, et Habib Mohamed Ikmail, 25 ans, de la ville de Kabatia, à Jenin, ont été tués jeudi à la suite d'affrontements avec les forces israéliennes prenant d'assaut Kabatia, a annoncé le ministère de la Santé. Selon des informations, des tirs nourris ont commencé après que les forces israéliennes ont encerclé la maison d'un militant dans la ville. 3 autres Palestiniens ont également été blessés lors de l'attaque, selon le ministère de la Santé palestinien. Plus tôt jeudi, le ministère palestinien de la Santé a déclaré que le Palestinien Samir Aouni Aslan, 41 ans, avait été tué par les forces israéliennes après avoir reçu une balle dans la poitrine dans le camp de réfugiés de Kalandia, au nord de Gaza occupée. Avec la mort d'Abdouladi Fakhri Nazal et Habib Mohamed Ikmaïl, le nombre de Palestiniens tués par les forces d'occupation depuis le début de cette année est passé à 9, dont 3 enfants. Il est à noter qu'en 2022, 224 Palestiniens ont été tués par les forces d'occupation israéliennes, dont 59 du gouvernorat de Jenin. L'actualité est aussi la guerre en Ukraine. L'Occident a envoyé un éventail d'armes autrefois considérées comme trop provocantes en Ukraine et il semble que les chars seront les prochains. Les responsables occidentaux craignent de plus en plus que l'Ukraine ne dispose que d'une fenêtre étroite pour se préparer à repousser une offensive russe anticipée au printemps et agissent rapidement pour donner aux Ukrainiens des armes sophistiquées qu'ils avaient auparavant refusé d'envoyer de peur de provoquer Moscou, selon un rapport de New York Times. Selon le journal américain, au cours des dernières semaines, une barrière après l'autre est tombée, à commencer par un accord des États-Unis fin décembre pour envoyer un système de défense aérienne Patriot. Cela a été suivi par un engagement allemand la semaine dernière de fournir une batterie de missiles Patriot et en l'espace de quelques heures, la France, l'Allemagne et les États-Unis ont chacun promis d'envoyer des véhicules de combat blindés sur les champs de bataille ukrainiens pour la première fois. Alors que l'Ukraine demande des chars sophistiqués depuis le début de la guerre, la pression pour satisfaire ces demandes s'est accélérée cette semaine, d'autant plus que les gouvernements britanniques et polonais ont publiquement appelé à un changement de position de l'Alliance occidentale. Les Britanniques ont signalé qu'ils étaient sur le point d'accepter d'envoyer un petit nombre de chars, et le gouvernement polonais a déclaré qu'il enverrait volontiers certains de ces chars de fabrication allemande, bien que Berlin devrait l'autoriser. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Émeute en Iran, le leader évoque l'erreur de calcul des ennemis. Le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei, a évoqué l'erreur de calcul des ennemis lors des récentes émeutes en Iran, affirmant qu'ils ont tenté en vain de rallier les Iraniens derrière leur complot visant à renverser le gouvernement et à désintégrer la République islamique. L'ayatollah Khamenei a fait ses remarques jeudi, lors d'une réunion avec un certain nombre de poètes et de panégyristes de la maison du Saint-Prophète à Téhéran. Les ennemis croyaient que le peuple iranien allait soutenir leur complot de sécession et de renversement du gouvernement, juste parce qu'il était aux prises avec des problèmes économiques, d'après le leader. Les ennemis pensaient qu'ils pouvaient, en recourant au tapage et insultes, sommer la discorde à corps et à cri auprès de hauts responsables du pays, a ajouté l'ayatollah Khamenei. Les ennemis se faisaient l'illusion de pouvoir affecter la volonté de la République islamique d'Iran en dépensant les pétrodollars d'un État stipendié, en essayant de semer le désespoir parmi la jeune génération iranienne et en incitant certains éléments mercenaires à demander l'asile dans d'autres pays, a indiqué le leader. C'est exactement sur ce point qu'ils ont commis une erreur grave, puisque personne ne leur a prêté attention. Ils ont fait une erreur parce que la volonté de la République islamique s'est révélée plus forte et plus ferme que toutes les composantes de pouvoir des ennemis, a souligné l'ayatollah Khamenei. Au cours des 40 dernières années, a déclaré le leader, les ennemis ont agi contre la République islamique d'Iran de toutes les manières possibles, mais ils ont jusqu'à présent échoué parce que leur calcul était erroné. et ce sera aussi le cas à l'avenir qui ne réserve que l'échec. Le leader de la révolution islamique a cependant averti que les erreurs de calcul de l'ennemi ne devraient pas aboutir à la négligence des Iraniens, appelant la nation à rester vigilante et à maintenir son unité et son espoir. L'ayatollah Khamenei a souligné l'importance pour le pays de se renforcer, puisque c'est le facteur principal pour démoraliser les ennemis. La tranquillité sera accessible une fois que nous serons devenus tellement forts que l'ennemi s'en retrouve désespéré, a ajouté le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Sayyid Ali Khamenei.
Bonjour à tous, ici à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Aujourd'hui, le sujet, on revient sur Charlie Hebdo, mais pas seulement cette fois. On va découvrir un petit peu ce que c'est la liberté d'expression version française. Tout de suite, je vous propose d'abord le reportage pour par la suite faire venir nos invités et en discuter. Tout de suite, le reportage.
L'Occident ne peut pas se cacher derrière la liberté d'opinion et insulter les valeurs saintes de l'humain islamique, Hezbollah. Le mouvement de la résistance libanaise Hezbollah a dénoncé dans un communiqué l'acte hideux de l'hebdomadaire français Charlie Hebdo. Le Hezbollah libanais a regretté qu'une fois de plus, le journal satirique français Charlie Hebdo, qui a déjà publié des caricatures blasphématoires du prophète Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sa descendance, et du vénéré Jésus-Christ, béni soit-il, est insulté les valeurs sacrées des religions divines. Avec des caricatures satiriques, le journal français a insulté la plus haute autorité islamique et religieuse dans le monde d'aujourd'hui. L'imam Khamenei n'est pas seulement le leader d'un grand pays, mais c'est l'imam d'une oumma, l'autorité religieuse de dizaines de millions de croyants, une référence en humanité, liberté, dignité, résistance, rejet de l'oppression. Il est le symbole et le soleil brillant de l'islam. L'ayatollah Khamenei dénonce la tyrannie du monde et les arrogants, affirme-t-il. Nous appelons également le gouvernement français à prendre des mesures efficaces pour punir les personnes impliquées dans cet acte, qui est une insulte aux valeurs sacrées et à la dignité d'une nation, indique encore le communiqué. Selon le Hezbollah libanais, se cacher derrière la liberté d'opinion, d'expression et des médias n'est plus crédible ni efficace. Nous avons tous vu comment l'Occident traite les opinions, les positions ou les médias qui sont en conflit avec ses intérêts politiques. Le communiqué note également que le gouvernement français devait faire la distinction entre son conflit politique avec la République islamique d'Iran et la permission revue indécente telle que Charlie Hebdo d'insulter les valeurs sacrées, la dignité humaine, les lieux et les symboles religieux.
Nous revoilà sur les plateaux. Alors, l'idée ici, c'est de faire venir d'abord les invités pour par la suite en discuter. Donc, tout d'abord, nos invités, Monsieur Ahmad Rami, donc directeur de Radio Islam. Bonjour, Monsieur Rami.
Bonjour.
Toujours ravi de vous avoir et de pouvoir obtenir votre expertise sur nos sujets. Manarada Obola, géopoliticienne. Bonjour, docteur.
Oui, bonjour à vous et à votre invité.
Pareillement, nous sommes ravis de vous avoir ici sur nos plateaux. Alors, la liberté d'expression, version française, utilisée comme un outil, présentée comme une valeur de la démocratie. Bon, on a déjà discuté de manière assez récente du fait qu'il n'y ait pas réellement de démocratie dans n'importe quel État, notamment ceux qui en font la publicité. On parle des pays occidentaux. On savait déjà la France moralisateur. On l'a vu s'exprimer depuis des dizaines d'années. Vingtaine, trentaine d'histoire, peut en citer énormément de fois, moralisateur par rapport aux cultures, la Chine, l'Orient, l'Afrique, toujours moralisateur, quels que soient les présidents. Quatre noms viennent à cette histoire de Charlie Hebdo. Maurice Siné, Georges Malbruno, Roger Garaudy et Robert Fourisson Ether. Alors, c'est quoi leur lien ? Leur lien, c'est qu'ils ont tous été jugés alors qu'il y a soi-disant la liberté d'expression en France. Il est arrivé plusieurs fois depuis que Macron est président, donc le deuxième, il y a eu deux mandats, où des journalistes ou des caricaturistes ou des gens qui se sont exprimés de manière libre, entre guillemets, se sont vus être attaqués par la justice française parce que Macron est un chef d'État, parce que ce n'est pas vrai. Dans tous les cas, l'Iran, devant Charlie Hebdo, devant la France, a demandé un geste diplomatique parce que les caricatures allaient beaucoup trop loin. C'était des caricatures qui s'en prenaient directement à un symbole étatique, un symbole également respecté par des peuples, puisqu'en Iran, il existe différents peuples, mais dans tout l'Orient également, il est respecté. Commençons par docteur Obala. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur les propos qui ont été tirés du reportage et moi-même par rapport à cette expression de liberté d'expression qui est finalement juste un jeu de mots?
En fait, la liberté d'expression n'est pas un jeu de mots, c'est plus on est entré à partir du 21e siècle avec, je dirais, le boom des ONG, c'est-à-dire des organisations non gouvernementales sous le titre des droits de l'homme. On a une géopolitique des droits de l'homme, c'est-à-dire l'interprétation des droits de l'homme au-delà du texte, et là je vais parler du texte, est souvent utilisée comme une arme pour justifier n'importe quelle campagne ou n'importe quel soulèvement populaire ou n'importe aussi quelle ingérence, parce que le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures en termes de droit international public, il peut être contourné par en fait le fameux type du droit humanitaire ou venir en aide ou en soutien des peuples opprimés. Mais avant de si vous le permettez, il faut dire que le Charlie Hebdo, juste une petite introduction, comment Harakiri est devenu Charlie Hebdo, parce que Charlie Hebdo, avant Charlie Hebdo, il y avait Harakiri, et le journal Harakiri devient en 1969 un hebdomadaire avant de disparaître en 1970 suite à une interdiction après une couverture célèbre sur la mort de De Gaulle. Et De Gaulle, on sait qui est le général De Gaulle dans justement la pensée dans la République française. Et donc le journal Harakiri a été interdit. La décision est venue du ministre de l'Intérieur Raymond Marcellin, et l'hebdomadaire Harakiri a été signé selon justement le communiqué à l'époque de Raymond Marcellin comme dangereux pour la jeunesse. Ça a été en fait un communiqué de Matignon. Et donc contre justement la couverture célèbre sur la mort de De Gaulle dans laquelle était sous-titré « Balle tragique à Colombey, un mois ». Voilà. Donc ça c'est donc déjà la question de la liberté d'expression dans un pays qui se dit laïque. Bon, il faut rappeler ce fait comme quoi il y avait certaines lignes rouges qui n'étaient pas violées. Et pour revenir au texte, qu'il faut rappeler, dans les droits de l'homme, il y a la liberté de croyance et il y a la liberté d'expression et d'opinion qui sont toujours, il y a toujours le « et » entre eux. C'est-à-dire on ne peut pas séparer la liberté d'expression à la liberté d'opinion. Toujours, ils sont ensemble. Selon l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Ce qui comprend donc la liberté d'avoir des opinions, de les exprimer, de diffuser des informations, des idées par tous les moyens au-delà des frontières géographiques. Mais pour être encore plus sûr, c'est que l'article 19 de la déclaration est très général. Donc on a eu le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui a réajusté ce droit en justement définissant des paramètres et des limites. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire il faut rappeler que la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est dans la Charte des Nations Unies, auquel tous les États ont signé. Et quand un État signe une charte, c'est-à-dire qu'il estime qu'il est engagé à respecter tous les articles de cette charte, y compris la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais en plus, chaque constitution dans chaque État, dans la majorité, 90% des États dans le monde, ont introduit la Déclaration universelle des droits de l'homme dans leur constitution, ce qui signifie que ces droits s'imposent aux droits constitutionnels, donc aux droits internes de chaque État. Donc qu'ils soient laïcs, qu'ils soient républicains, qu'ils soient islamiques, qu'ils soient monarchiques, si jamais ils ont signé, ils s'imposent. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que ce droit interne, l'article 19, plus exactement le pacte international relatif aux droits civils et politiques, il stipule que tout le monde a le droit d'avoir des opinions, toute personne a droit à la liberté d'expression, mais dans le paragraphe 2 du présent article, il y a des obligations et des responsabilités particulières. Respecter les droits ou la réputation d'autrui, ok? Donc la liberté d'expression d'opinion, elle est conditionnée par ce petit A du paragraphe 2, et B, protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé publique, etc., ou la morale. Bon, donc là, ça c'est pour la liberté d'expression et d'opinion. Donc même si Charlie Hebdo veulent se cacher derrière la liberté d'expression d'opinion, oui, mais il y a cette limite.
Alors, je répète ce que vous avez dit pour nos auditeurs, pour pas qu'ils soient perdus. Alors, il y a cette charte, cette charte qui est en général qui est indiqué dans les constitutions pratiquement de tous les pays du monde entier. Donc, les constitutions qui reprennent des valeurs, aucune loi ne peut aller contre la constitution, pour donner une image bien directe. Et ces conditions touchent en particulier la réputation et la morale.
Voilà. Il y a deux choses. Donc, il y a en fait trois droits. Il y a la liberté d'expression et d'opinion, qui est un droit dans l'article 19. Il y a aussi autre chose dans les droits de l'homme. Il y a la liberté de croyance. Et ces trois droits sont inscrits ou enregistrés dans ce qu'on appelle les libertés personnelles. Dans la liberté de croyance, alors là, c'est le summum. La liberté de croyance ou la liberté religieuse est la liberté d'une personne d'embrasser la religion librement et de pratiquer des rituels et des traditions sans interférence ni interdiction. Bon, si on veut aller plus loin, c'est-à-dire, ça c'est l'article 18, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, y compris la liberté de changer de religion ou de croyance. Et cet article, je ne vais pas continuer. Attention, la liberté de les exprimer et de les appliquer dans l'éducation, la pratique et les rites, que ce soit en secret ou avec la communauté. Ça, c'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et également dans la Constitution française. D'accord ? Donc, mais encore allons plus loin. C'est que dans certaines constitutions, et c'est là
je,
où.
Je me permets de vous interrompre juste deux secondes. Je vous interromps. C'est sur ces mêmes bases, parce que je le rappelle à nos auditeurs, c'est sur ces mêmes bases que le président Macron et Brigitte Macron, parce qu'il y a eu un scandale à un moment donné. C'était Brigitte Macron et le président Macron qui étaient attaqués pour leur image. Et je crois, si je ne me trompe pas, c'était sur cette même base de réputation qu'ils avaient été attaqués en justice, ceux qui
Exactement.
Avaient fait les informations. Allez-y, continuez. Voilà, Exactement. C'était juste pour un rappel. Allez-y.
Oui, exactement. Donc, mais aussi dans la liberté de croyance, il y a un texte qui dit quiconque dénie des rites religieux qui sont publiquement pratiqués, quiconque désavoue publiquement le nom de Dieu, ça c'est dans la constitution libanaise, est puni ainsi que toute personne qui empêche. Bref, moi ce que je veux souligner, c'est que à partir du moment où on a une nuisance à la réputation de quelqu'un, qu'il soit religieux ou non religieux, c'est là où la liberté d'expression et d'opinion et la liberté de croyance a une limite. Peu importe, il ne s'agit pas là de dire qu'on est contre la liberté d'expression. Non, mais même le texte même de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule qu'il y a des limites. Si on viole ces limites, à ce moment-là, on n'est plus dans la liberté d'expression et d'opinion, encore moins dans la liberté de croyance.
Merci, docteur, pour toutes ces informations. Alors, nous allons vers notre deuxième invité, M. Ahmad Rami, je rappelle, directeur de Radio Islam. Alors, M. Rami, vous avez entendu les arguments, on va dire, géopolitiques, politiques et juridiques, surtout de comment l'Iran a réclamé un geste, on va dire un geste diplomatique, mais finalement un geste de droit, un geste de normalité, puisque, encore une fois, comme l'a indiqué et l'a stipulé le docteur Obala, c'est indiqué dans leur constitution qu'on s'en prend à une réputation, et ce n'est pas la première fois que Charlie Hebdo s'en prend à une réputation, ce n'est pas la première fois qu'il s'en prend à une croyance, il n'y a pas eu, je ne sais pas le nombre de plaintes, alors ça fait de la bonne publicité pour eux. Peut-être, on ne sait pas. Vous, en tant que responsable d'une radio, donc d'une radiodiffusion, qu'est-ce que vous en pensez ?
Il faut d'abord mettre aussi, disons, les choses au point. C'est que ces attaques, ou bien cette guerre, ou bien cette campagne, c'est une campagne pas seulement contre l'Ayatollah Khamenei, le leader de la révolution islamique, mais contre toute la révolution islamique en Iran et contre l'islam. Et il faut savoir, ça il faut mettre point sur les i, que ces mêmes acteurs qui s'attaquent à la révolution islamique d'Iran et encouragent l'opposition monarchique en Iran contre la révolution islamique d'Iran. C'est-à-dire ceux qui sont interviewés, qui sont encouragés, et qui sont appuyés, ce sont des anti-révolutionnaires. Alors si la révolution française aujourd'hui est le symbole et l'origine du régime français, il faut savoir que nous, pour nous les musulmans, l'islam, c'est notre révolution. Et la révolution islamique d'Iran, c'est notre révolution. Mais malheureusement, quand la France, par exemple, a occupé le Maroc, la première chose qu'elle a installée, la France qui a aboli la monarchie, qui a pendu le roi, qui a tué le roi, exécuté le roi, la monarchie, d'une façon sauvage, eh ben, la première chose que la France a fait après avoir occupé le Maroc, c'est d'instaurer une monarchie au Maroc. La monarchie qui est interdite en France aujourd'hui, eh ben, on l'a, jusqu'à aujourd'hui encore, on l'appuie au Maroc. Le Maroc, la monarchie marocaine est une monarchie instaurée par la France qui interdit sur son sol la monarchie, la dictature. Il faut savoir que la monarchie en Iran et au Maroc, ce sont des régimes qui appartiennent au passé mort, au passé qui est révolu, qui ne reviendrait jamais. Il n'y aurait jamais plus de Shah d'Iran en Iran. L'ancien régime en Iran, dictatorial pourri, ne reviendrait jamais. La révolution islamique d'Iran est venue pour rester et c'est l'expression du peuple et de la volonté du peuple en Iran, et pas seulement en Iran, de toute la nation islamique. Il faut savoir que aujourd'hui, les sionistes, la propagande sioniste, soutient tous les régimes dictatoriaux chez nous, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Égypte, ou en Arabie Saoudite, aux Émirats, ou surtout en Arabie Saoudite, où ce régime soutient la dictature arrogante.
On a vu, monsieur Rami, on a vu là ce matin, depuis 2-3 jours, je ne sais pas quand est-ce que ça avait été publié, par Figaro, un article américain qui avait été traduit, dont le dessin en fait représentait le prophète, mais soit son nom et sa famille. Et quelqu'un du Figaro avait publié l'article, je pense que c'est Figaro, peut-être que je me trompe, mais donc un média français, ils avaient publié l'article avec la photo où l'image du prophète avait été floutée. Et là, à l'heure actuelle, depuis 24 heures, 48 heures, on voit une réaction en masse sur Twitter, en disant mais qui a osé faire ça, qui s'est permis de faire ça. On laisse entendre que c'est certainement peut-être quelqu'un qui est de croyance religieuse au sein même du journal, ou même, et pourtant, comme vient de le dire Madame Obala, il y a un respect de croyance, et là on s'en prend à ce respect de croyance. C'est plutôt ça, c'est peut-être cette opinion-là que je pense que les communautés du monde entier cherchent à promouvoir, non seulement le respect de la souveraineté, comme vous venez de l'indiquer, mais également le respect des croyances des individus. Si les individus ont le droit de croire, eh bien on doit leur respecter. Quand on regarde les différentes premières de Charlie Hebdo et comment ont été les images violentes, parce que ce sont des images extrêmement violentes, hein, ce ne sont pas des caricatures humoristiques seulement, certaines images sont extrêmement violentes, notamment les dernières. Vous en pensez quoi ?
Oui, il faut, quand on dit croire, bon, l'Occident, la France, qui est occupée par les sionistes, soutient la croyance sioniste juive qui se dit que eux-mêmes, ils se disent que cette terre leur a été promise par leur Dieu avec le droit d'exterminer le peuple palestinien. Donc, en fait, dans nos pays, pour eux, pour les sionistes, la démocratie n'est pas valable. Ce qui est valable, c'est la dictature, c'est l'occupation, c'est la colonisation. Jusqu'à présent,
tous ces pays, au nom de la démocratie, sanctionnent, au nom d'un mot qui ne représente rien, comme vous venez de le dire, se donnent le droit à des choses qui s'en prennent directement à une population, parce que on l'a suffisamment répété sur le plateau Presse TV, eh bien, il y a des gens qui ont souffert des sanctions d'un point de vue non seulement médical, par exemple. Madame Obola, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose par rapport aux propos qui ont été tenus, par rapport à donc cette liberté d'expression qui finalement devient plus une arme qu'autre chose, mais aussi qui s'en prend à des peuples, à la souveraineté.
Disons que là, il faudrait, après avoir expliqué un petit peu le texte, il faut se poser la question, pourquoi on continue à utiliser ces caricatures ?
Ils sont violentes, ce ne sont pas des simples caricatures. On a vu les caricatures que par exemple l'Iran a publiées. On est loin de ce degré de violence picturale.
Moi, ce que je voudrais rappeler quelque chose aux auditeurs, Charlie Hebdo, quand il a commencé, était connu qu'il était le défendeur de certaines causes, disons, entre guillemets, humaines. Je parle dans les années 60 et 70. Dans les années 60 et 70, souvent, il était pour l'écologie, il était pour l'éducation. Donc, il dénonçait certains responsables politiques dans des affaires de corruption, oui, etc. Donc, au début, il a bâti sa réputation sur, en fait, une forme de dénonciation de la corruption et de défenseur des causes humanitaires.
Et vous considérez que c'est encore le cas aujourd'hui ?
À partir des années... Non, voilà, justement. Je pense qu'il a dévié de sa ligne éditoriale. C'est-à-dire que si au début, il était en train de dénoncer... Parce qu'en fait, le Charlie Hebdo, ce sont des gauches. C'est un parti... La ligne éditoriale est plutôt gauche. Donc, il était en train surtout de s'attaquer à tout ce qui est extrême droite et droite. Mais je pense qu'il a construit justement sa réputation sur cela, sa crédibilité entre guillemets. Et ensuite, il a été exploité, c'est-à-dire que je pense qu'il est passé dans les années 80-90 par beaucoup d'affaires. Il était poursuivi en justice par beaucoup de responsables politiques. Il avait des problèmes financiers. Donc, je pense qu'il a détourné, si j'ose dire, ou plutôt il a été exploité pour sauver justement son existence au niveau matériel. Et donc il a commencé à s'attaquer sur justement tout ce qui est religieux. Par les religieuses.
Concluez vite parce qu'on arrive à la fin du débat. Allez-y, continuez.
Oui. Concluez. Et donc il a continué à exploiter cela. Et là, la question qui se pose, c'est pourquoi il persiste, pas seulement Charlie Hebdo, on a également un journal allemand. Je pense qu'ils essaient de provoquer l'islam et les musulmans autour du monde afin de provoquer quelque chose sur le terrain, afin qu'il y ait une réaction vive sur le terrain et pour ensuite justifier n'importe quel acte de défense contre la laïcité.
Merci.
Voilà. C'est ça
ce que je voulais dire. Merci, monsieur Rami. Merci pour votre conclusion. Merci aussi pour votre défense, parce que finalement, ici, sur le plateau, on a indiqué que le gouvernement français avait donc le droit de demander à Charlie Hebdo, et avait même le devoir, étant donné qu'ils ont des relations diplomatiques avec l'Iran, de donner acte de ce qu'a demandé la République d'Iran, et ainsi que d'autres peuples. Donc là, c'était la conclusion d'aujourd'hui sur donc la situation de la liberté d'expression version démocratique occidentale et sur le fait que malgré tout, les protections, les réputations, les morales, les croyances doivent être protégées, même malgré la liberté d'expression. On revient encore une fois qu'on parle de caricatures extrêmement violentes qui s'en prend à la dignité humaine. Je vous remercie donc de nous avoir suivis aujourd'hui. Je remercie nos experts, comme toujours, de bien vouloir participer. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet du débat. À bientôt.
réaction à l'action offensante du journal hebdomadaire français Charlie Hebdo, le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué qu'il mettrait fin aux activités de l'Institut français de recherche en Iran, IFRI. Que cherche la France à travers ces provocations ?
Écoutez, le problème, c'est que la France, elle est toujours de toutes les provocations. En fait, on peut rappeler déjà que Charlie Hebdo a été dans toutes les provocations contre le prophète Mahomet, qu'ils ont persisté et signé lorsqu'il y a eu vraiment une protestation des musulmans dans le monde entier. Dans le monde entier, et il y a eu même des émeutes suite à ce mépris des croyances des autres d'un côté et ce manque de respect, cette manière de réagir on ne sait pas en quoi, mais vraiment c'est du domaine des voyous quoi. Maintenant aussi, il recommence avec le Mursed Khamenei, avec les ayatollahs en général. Si on peut dire, en fait, ce manque de respect, qu'est-ce que ça cache ? Ça cache une volonté et une incapacité en même temps. Alors, cette volonté de dire vos croyances sont à vous, c'est même pas à vous, nous les méprisons. C'est le méprisant, le mépris des autres, le mépris des civilisations autres que les leurs, le mépris des croyances autres que les leurs. Ce qui revient à dire que c'est une pratique coloniale des plus anciennes, des plus dégueulasses, je peux dire, et qui a été vraiment balayée par l'histoire. Comme ça, les peuples peuvent savoir que ces Français qui sont au pouvoir n'ont pas changé d'un iota d'esprit, de l'esprit colonial, qui est le mépris des autres peuples. Ça, c'est un premier point. La deuxième volonté, c'est une volonté d'ingérence aussi dans les croyances des autres. Nous sommes là pour vous dire ce que vous devez penser, qui vous devez respecter et qui vous devez ne pas respecter. Alors ça, c'est aussi de la pratique aussi colonialiste, hein, des plus anciennes, des plus horribles, mais en même temps de l'interventionnisme systématique, ceci venant après l'ingérence de la France, non seulement en Syrie d'ailleurs, je voudrais vous rappeler quand même, rappeler à tout le monde que la France a été un peu la tête de pont de l'agression contre la Syrie, en protégeant les frères musulmans et en protégeant pas seulement les frères musulmans, mais les bandes armées et les bandes dites djihadistes, mais qui ne sont que des hordes sauvages qui ont été élevées en Occident et qui ont été nourries, entraînées et financées d'ailleurs par les forces occidentales. La France en a été la tête de pont parmi ces pays, la France, les États-Unis, l'Angleterre. Deuxième point, en fait, donc là, on rappelle aussi cet attentat qui a eu lieu contre les pèlerins à Mashhad, ce qui était aussi, dont le résultat a été une quarantaine de morts, une quarantaine de croyants qui étaient là juste pour faire leurs prières, etc. Et voilà qu'il y a un terroriste qui vient ouvrir le feu et 40 morts et des blessés, et puis c'est un bain de sang. Donc là aussi, c'est un manque, pas seulement un manque de respect, c'est aussi éviter d'aller dans les lieux de culte, parce que là, vous serez tués, quoi. Par la suite, on sait quand même qu'il y a eu des attaques dans trois régions de l'Iran, de hordes sauvages, de hordes terroristes qui sont rentrés aussi et qui ont provoqué des troubles, des manifestations, soi-disant, mais en fait, qui se sont attaquées aux forces de l'ordre, qui ont brûlé des édifices administratifs, qui ont tué des forces de l'ordre, et ils les ont agressés, ils les ont tués. Donc, en fait, là aussi, et bien sûr, ce mouvement a été hyper soutenu par l'Occident. Suite aussi, il y a eu aussi cet événement du décès malheureux de Hamza Amini, qui était une jeune femme qui était opérée déjà de la tête du dire de ses parents, en fait, opérée et qui a eu une opération, une intervention importante dans une maladie du cerveau quelques mois auparavant. Donc, c'est quelqu'un qui est très fragile. Sans doute qu'elle a eu un arrêt cardiaque. Et puis, on a vu les vidéos où que personne ne l'a touchée. Alors là-dessus, on prétend, donc bien sûr, il y a eu énormément de manifestations en Occident au nom du droit de la femme, au nom du droit à enlever le hijab, etc. On fait des amalgames entre des choses qui n'ont rien à voir. L'histoire du hijab n'a rien à voir avec les troubles terroristes qui ont eu lieu à l'intérieur, ça n'a rien à voir avec l'attentat terroriste qui a eu lieu à Mashhad lui-même. Donc, mais c'est très facile en Occident et pour les médias en général de faire les amalgames qu'on veut sans qu'il y ait la moindre logique de lien entre les actions. Donc ça, c'est aussi un autre point dans lequel les médias français sont champions, et les médias mainstream, je peux dire, sont champions, parce qu'ils sont payés par tout ça, ils sont payés par les Américains. Bon, on peut dire les Américains et les sionistes, parce que c'est le groupe Murdoch qui a la propriété de la majorité des moyens d'information en Occident, il faut le savoir. Et ce groupe Murdoch, c'est un groupe occidental, sioniste, qui a aussi main basse sur les médias mainstream. Donc voilà, on voit tout de suite que c'est très facile de provoquer tout ça. C'est trop facile aussi de provoquer des troubles là où on veut. Moi, je pourrais même dire dernièrement l'histoire de l'attentat contre les Kurdes. On voit clairement que c'est un attentat monté de toutes pièces. Mais pour que la France puisse reprendre en main aussi le flambeau des Kurdes et qu'elle puisse les diriger à la fois contre la Turquie, la Syrie et l'Iran, mais aussi l'Irak. Donc, franchement, ils sont toujours en train de provoquer et puis de créer des faux problèmes et des faux combats, tout ça pour s'ingérer, porter atteinte aux pays qui sont stables, mais qui sont des pays qui refusent leur diktat et qui affirment leur indépendance et qui affirment leur civilisation et qui ne font pas attention à tous les mensonges de démocratie, de respect de droits de l'homme, etc., de l'Occident. Parce que là aussi, ce sont des gros mensonges. Et je crois que l'Occident est le plus loin qu'on ne le pense, même très loin, des droits de l'homme et des droits des femmes aussi. Parce qu'il parle beaucoup de droits des femmes, mais là où tout le monde se tait quand il s'agit de trafic de jeunes femmes pour la prostitution, quand il s'agit de trafic d'enfants pour la prostitution, là, ils se taisent tous et ils prétendent défendre les droits des femmes. Donc, c'est vraiment un Occident qui est laid et qui cache sa laideur par des masques de jolis mots et de jolis slogans pouvoir se propager facilement dans nos pays et dans nos peuples et dans leur peuple aussi, pareil.
Thank you.